RMC.
Très très dur à comprendre pour les femmes, le hors-jeu.
Il faut que je vous explique le hors-jeu.
RMC, football show.
Si vous courez et que vous passez avant que le ballon soit parti d'ici un de vos copains, là vous êtes en position de hors-jeu.
La vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
En tous les cas, pour les femmes comme pour les hommes, quand vous êtes tout seul, vous êtes pas bien. C'est clair?
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot Nicolas Villas.
Daniel Riolo et Pierre Ducrot sont là, bien entendu. Nos drôles de dames nous ont rejoints. Bonsoir, David Lortolari.
Allô, Freunde. Salut, messieurs. Salut à tous.
Salut, David.
Ciao, Simone Rovera.
Ciao, Ansara. Bonsoir.
Salut, Simone.
Fred Hermel est avec nous. Bonsoir, Fredo.
Hola, chicos.
Oh, que la journée a été longue.
Bon, heureux, heureux, Fred.
Ah oui. Oh, mais je suis en forme. J'ai la pêche.
Julien Laurence aussi est avec nous pour l'Angleterre, bien sûr. Salut, Julien.
Salut à tous.
Alors mon Fredo, dixième journée de Ligue 1, on rappelle quelques résultats marquants. Le Classico, bien entendu, la victoire 5-1 du Barça face au Real. L'Atlético qui a battu la Real Sociedad 2-0. La victoire de Séville 2-1 face à Huesca. Valence qui a toujours pas gagné, 0-0 face à l'Atlético à Bilbao. Et on va démarrer, mon cher Fredo. Allez, petit jingle quand même, Fred Hermel.
Di Maria, il est tout seul. Di Maria, t'es nul. Mais t'es nul, Di Maria. Il a frappé au-dessus, Di Maria. Di Maria, tu es nul.
Ah, c'était le temps où Di Maria était au Real Madrid, mon cher Fredo. Alors, un point sur la situation du côté du Real, parce que ça y est, c'est officiel. Lopetegui s'est fait remercier. Et le communiqué, il pique un peu quand même, hein, Fredo.
Il pique beaucoup. Je le trouve un peu méchant.
Tiens, je lis juste un extrait, Fred.
Vas-y, oui.
Alors voilà. La direction estime qu'il existe une trop grande disproportion entre la qualité de l'effectif qui compte 8 nommés au prochain Ballon d'Or, chose inédite dans l'histoire du club, et les résultats obtenus. Voilà ce qu'explique, entre autres.
Ouais, en procédure.
Bah, ça pique un peu, quand même.
On va expliquer ce qui s'est passé. Avant de discuter du communiqué, on va replacer tout ça dans le contexte, peut-être. Voilà. C'est-à-dire que, ça, c'est le coup de grâce. Se communiquer parce que ces dernières heures elles ont été terribles pour Lopetegui. Lui il était persuadé qu'il serait viré dès hier après-midi. Il dit au revoir à ses joueurs et ce matin, comme on lui avait rien dit, bah il est arrivé à l'entraînement, il a dirigé l'entraînement. C'est un peu dur quoi quand même. Il a préparé le match de coupe qui va se disputer à Melilla mercredi soir tout en sachant que il allait être viré et que cette agonie continuait, et c'est vrai que Julen Lopetegui a attendu ce soir, et vers 20h30, il a reçu un coup de fil en disant voilà, c'est fini. Et à 21h, le conseil d'administration du Real qui venait de se réunir a diffusé ce communiqué très, très dur. Et voilà. Et ce qu'il y a de terrible pour la situation du Real aujourd'hui, c'est que on a l'impression que personne veut prendre ce banc. Voilà.
Alors, on en est où dans l'histoire Conte, parce que c'était quasiment fait hier, selon pas mal de médias espagnols. Au final, c'est quoi? Il fait volte-face, l'Italien?
C'est-à-dire que ce matin, quand on a préparé l'émission, sans révéler de secrets, on s'envoie des mails pour préparer l'émission, et je voulais faire un avis tranché en disant « Oh là là, Conte, ça va faire des étincelles avec le vestiaire ». Pourquoi le nom de Conte est sorti? Parce que des dirigeants en ont parlé ouvertement hier, en privé, mais ouvertement. Et que c'était quasiment fait, en tout cas, que c'était lui choisi et que ça allait très bien se passer. Et puis il y a eu cette déclaration de Ramos. Ramos qui fait remarquer après le match à Barcelone et qui dit les entre à la main dure, à la poigne de fer, ça marche pas. Il est beaucoup plus important de savoir gérer un vestiaire. Le respect, il faut savoir le conquérir. Ça ne s'impose pas. En gros, le message c'est Conte, t'es pas le bienvenu quoi. Et il semblerait que ça.
Ils vont faire Solari jusqu'au bout alors.
Ben attends, je termine simplement puis après on discute.
Parce qu'il est de la boutique.
Je termine. Que ces infos soient arrivées.
Non mais donc comptez
aux oreilles. Attends. Laisse-moi 2 minutes, s'il te plaît, quoi. Tu peux attendre 2 secondes, quand même. Que Conte n'a pas du tout apprécié ça. D'arriver dans un vestiaire où tous les mecs vont être contre lui, notamment les cadors, Marcelo, Ramos, etc., bah, ça lui plaît pas beaucoup. Ça inquiétait déjà les dirigeants, et du côté dirigeant aussi, ils freinent des quatre fers. Donc,
mais il n'y a pas que le PSG, ou c'est les joueurs qui décident alors, finalement?
Il se trouve que là, en tout cas, ils font une sorte de veto à Conte. Ça veut pas dire qu'il va pas venir. En tout cas, il sera pas là demain. Il sera pas là mercredi.
Mais qu'est-ce qui leur plaît pas, en fait?
Ça lui donne pas envie, quoi.
Bah, les résultats, peut-être.
Santiago Solari, l'entraîneur de l'équipe B du Castilla, qui va être intérimaire. Jusqu'à quand? Personne le sait.
Et donc, Fred, entre hier où effectivement tu, toi, avec tes infos, ou je sais pas, mais tu, Conte, c'est quasiment fait, ou en tout cas c'est très avancé. Entre deux,
il y a que
les mots de Ramos qui font basculer.
Pas que, mais après les discussions elles continuent. Mais c'est-à-dire que on parlait même hier de présentation de Conte aujourd'hui à 13h. C'est dire si c'était avancé.
Bah ouais, non, mais c'est assez fou parce que
c'est fou. Ramos il a qu'à faire entraîneur joueur.
Mais malgré la place que Ramos peut occuper dans un vestiaire qui est importante et qui est utile, à un moment donné l'institution Real elle est quand même costaud normalement.
Bien sûr, mais il y a pas que ça, il y a pas que Ramos.
Directement de Ramos. Tu peux parler les échos de l'Italie, c'est qu'il y a deux joueurs qui ont été contactés par les vestiaires du Real Madrid, peut-être l'on dit même en Espagne, et sont Morata et Diego Costa, deux qui ont eu Conte et qui ont eu donné des retours très négatifs sur la façon de gérer les vestiaires.
Alors attends, Simone, Julien, il se disait aujourd'hui que Conte était à Londres aussi, justement, pourquoi? Pour résilier son départ de Chelsea, enfin, il y a une rumeur qui circulait comme ça.
Ouais, effectivement, hein, c'est les mêmes échos qu'on a eu de ce côté-là de la Manche. Après, je rejoins un peu ce que Fred disait. À partir du moment où les joueurs du Real se sont visiblement renseignés, comme ce que disait Simone aussi, par rapport au vécu des joueurs de Chelsea, en tout cas certains joueurs de Chelsea, et de la méthode Conte, de savoir comment Conte gérer son vestiaire, quelle attitude il avait envers son vestiaire, envers ses joueurs, et que ben Morata et Diego Costa, moi on m'a dit aussi un autre joueur, ont plutôt été
Courtois dans le vestiaire. Et c'est-à-dire à tel point que Thibaut Courtois, il y a eu un article dans El País la semaine dernière qui disait que Courtois s'était ouvertement plaint auprès des dirigeants de la possibilité de voir Conte arriver ici, à tel point que Courtois a dû démentir dans un tweet. Non mais c'est dire, qu'il se passe, il y a des choses très étranges, mais on a l'impression que ce banc, personne n'en veut aujourd'hui. Qu'il est maudit, enfin il est maudit dans le sens où il y a quand même de gros entraîneurs qui ont refusé de prendre la succession de Zidane, on comprend, mais a posteriori pourquoi. Lopetegui l'a accepté, on voit ce qui s'est passé, mais aujourd'hui les gens ne se bousculent pas pour le faire, pour venir. Et donc qu'est-ce qui revient là? Bah Roberto Martinez, mais ça veut dire quoi? Se remettre dans un entraîneur qui est sous contrat avec une sélection, etc. Ben, moi j'ai l'impression finalement, eh ben c'est Solari qui va faire le boulot jusqu'à temps.
Il n'y a pas une question de diplôme, Fredo.
Précision sur Conte.
Non, il a ses diplômes.
Les frères de Conte a parlé il y a 3 jours à la Gazette de Sport. Il a dit il n'y a plus aucune lien avec Chelsea. Donc l'histoire qu'il serait allé pour résilier.
Donc c'est des conneries tout ça. Alors qui serait allé là-bas
Conte,
pour négocier un truc avec Chelsea?
Conte sur la Gazette de Sport, qui est son agent. Les frères de Conte et son agent ont dit on n'a plus aucun lien avec Chelsea après qu'il ait été viré en juillet.
Alors c'est vrai que les résultats sont quand même catastrophiques. Hein. C'est le 5e pire entraîneur en termes de résultats dans l'histoire du Real. En termes
le Real est 9e. Le Real est 9e, pas au bout d'une journée, pas au bout de deux, au bout de 10 journées. Ouais. C'est dingue. Et le Real est à 7 points de retard sur le Barça.
C'était pas arrivé depuis 2001 et cette année-là, ils finissent bien, quoi.
Oui, parce qu'il y a la Ligue des Champions, mais c'est vrai que ça avait été compliqué. C'est la première année des Galactiques, c'est l'année d'arrivée de Zidane. Mais après, moi, je peux comprendre Conte qui arrive dans une situation sportif compliqué, et si en plus il y a des joueurs qui sont contre lui, mais il va pas aller dans cette galère, quoi. On dit pas qu'il va pas venir, hein, mais en tout cas ça devait être annoncé aujourd'hui et pour l'instant il est toujours pas annoncé. C'est bien qu'il y a un problème entre le club et Conte. Les réticences elles sont doubles.
Ah, vu d'Allemagne maintenant.
Ouais, mais voilà, parce que
le Real Madrid est universel, donc c'est normal.
Ce matin les éditorialistes, les commentateurs dans la presse allemande, celle pas seulement la presse factuelle mais celle qui prend un peu position, notamment les journaux généralistes, puisque c'est comme ça en Allemagne, ce sont les généralistes qui parlent de sport. Et clairement, alors ça concernait le départ de Lopetegui et pas l'éventuelle arrivée de Conte, mais clairement le point de vue c'était, dites les gars, c'est peut-être pas juste l'entraîneur qui est responsable, il y a peut-être aussi une responsabilité non seulement des joueurs sur le terrain, mais aussi des joueurs dans le vestiaire. Alors je suis pas allé plus loin moi dans mes analyses de cette presse-là, mais c'était les titres qui revenaient régulièrement ce matin.
Il y a des journaux espagnols qui ont eu la même analyse aussi, Fred, non?
Oui, et puis il y a Marca qui fait sa une et qui
c'est pas que de la faute de Lopetegui. Voilà, on l'a vu passer sur MC Sport News.
C'est-à-dire que la une de Marca elle est très très dure contre le club.
Il y a quand même un nom qui est pas évoqué. Excuse-moi, mais il y a un nom, je suis très étonné que ce soit pas évoqué parce qu'il est libre et il attend un poste maintenant depuis quelque temps et il a peut-être la dimension pour ce club.
Pascal Duprat.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles?
Je sais où tu vas venir.
Et où?
Laurent Blanc.
Le Laurent Blanc.
Bah oui.
Quoi, Lorenzo?
C'est quand même très étonnant que son nom soit pas évoqué.
Son nom est évoqué.
Ah, bah voilà.
Son nom est évoqué, mais a priori.
Mais prenez Jardim, les mecs.
Mais juste évoqué, mais
alors, attends, Jardim. Ah non, Jardim. On va expliquer.
Vas-y.
Nico, quel est le nouvel agent de Jardim depuis sa prolongation?
Alors, Jorge Mendes, depuis qu'il a prolongé, effectivement, parce que c'était pas lui au
voilà. C'est vrai, tu l'as déjà dit hier, ça.
Bah,
ouais,
on va dire,
parce
qu'il y a des gens
qui n'ont
pas forcément écouté hier soir.
Mais si, les gens qui étaient là hier sont là ce soir.
Comme si toi, tu te répétais pas, mon pauvre Daniel.
Rarement, mon vieux, rarement.
Ouais, on est
le moins possible.
Parce que toi, t'es plutôt le comique de répétition, quand même, en général.
En blague, j'assume totalement ça, tu as raison.
Ah oui, oui. Tu voulais en venir où, Fredo, avec Mendes, là?
Bah, c'est que les relations entre Mendes et L'Oréal sont catastrophiques.
C'est dire qu'il avait plus rien à dire.
Voilà.
Donc ça va pas aider non plus, hein. Ça va pas aider non plus. Et je vous dis, bah je j'ai vraiment le sentiment au moment où je vous parle, après on verra dans les prochains jours, que Solari,
oui, vas-y.
Il va rester longtemps. Oui, un autre truc aussi. Le Real a 14 jours pour inscrire son nouvel entraîneur.
Ouais,
ah
oui, exact.
Parce que les règles de la fédération espagnole. Mais voilà, à partir du moment où t'as pas d'entraîneur,
et c'est pas en Espagne qu'un entraîneur. Si un entraîneur a entraîné un club de Liga, il peut pas en entraîner un autre dans la même saison. C'est pas ça.
C'est ça, exactement.
Ouais, c'est ça, ouais. Okay.
Donc c'est, mais après, Liga de première division.
T'es habillé comme un portiche, ce soir.
Non, c'est aux couleurs de, c'est quoi, c'est pour Leicester City. Ceci dit, ce qui se passe, Fred, t'as quand même pas la sensation que dès le départ, la manière dont Lopetegui est arrivé avec le timing, dégueulasse où ils ont fait ça. Alors, je sais pas si c'est le Real, si c'est lui, mais t'as pas l'impression que c'était, on allait dans un mur et voilà, on y est dans le mur.
Mais en fait, a posteriori, avec le recul, on se dit que c'était biaisé d'entrée, quoi.
Bah oui.
C'est-à-dire que son entrée dans ce club, elle se fait sur un drame. Parce que j'étais à la présentation de Lopetegui, le lendemain de son éviction de la sélection espagnole, et c'était un mec qui était par terre.
Ouais.
Donc, voilà.
Alors, tout à l'heure, Fredo, tu disais aussi, il y a une partie de la presse espagnole qui dit que c'est pas que de la faute de Lopetegui. Il y en a pas mal qui montrent du doigt à Florentino Pérez.
Ouais.
Alors, j'ai vu que c'est le père de Lopetegui, qui a été joueur d'ailleurs également, qui a été gardien, je crois, qui a expliqué que, l'année dernière.
Surtout, il y avait spécialiste de la force basque.
Voilà, exactement.
C'est-à-dire de jeter des troncs et tout ça.
Exactement.
Et
qui a expliqué que l'année dernière, il y avait Cristiano Ronaldo qui n'est plus là cette année.
C'est vrai.
Déclaration. Non, mais ça, c'est un sport basque.
Non, mais c'est vrai. Les basques, ils jettent des troncs.
Non, mais c'est une méga
star.
Non, ils jettent pas que des troncs, ici aussi, ici les troncs.
Après ils font des tirages de trucs.
Déclaration à lire demain dans France Football de Cristiano Ronaldo sur son départ du Real Madrid. Je sentais à l'intérieur du club, surtout de la part du président, qu'on ne me considérait plus comme au début. La vérité, c'est que le président ne me voulait plus, mais qu'en même temps, il me faisait ça. Non, pardon. La vérité, c'est que le président me voulait, mais qu'en même temps, il me faisait savoir que mon départ ne constituerait pas un problème.
Mais qui a dit ça?
Ronaldo, les gars.
Tu l'as pas dit.
Cristiano Ronaldo à lire demain dans France Football. Je vous ai
magnifique interview de notre ami Thierry Marchand.
Vous coupez tout le temps.
On a rien compris ce que t'as dit. C'est pas clair, mon vieux.
Allez, relou.
Oh là là.
Vas-y, Fredo.
Toujours ça. Magnifique interview de Thierry Marchand. Cristiano Ronaldo.
La boutique Guêche, un moment ou un autre, elle arrive.
Vas-y, Fredo.
Cristiano Ronaldo a toujours envie, toujours besoin qu'on lui dise je t'aime. Et c'est vrai que Florentino Pérez,
il l'aimait un peu moins et s'était lassé, quoi.
Ça arrive beaucoup, en général.
Très très rapido, mon Fredo, ton cador. Alors ton bidon, on le sait, c'est Lopetegui, ton cador de la semaine.
Ouais, alors Lopetegui, simplement pour dire quoi, parce que c'est vraiment la mauvaise pioche au début. Et le type, en deux secondes, le type qui était à deux jours de débuter un mondial avec l'une des équipes favorites, qui ensuite entraîne le plus grand club de l'histoire du football, et le mec perd tout en quatre mois. Hallucinant.
Et ton top de la semaine, du coup? Alors, tu voulais mettre Suarez, qui avait le triplé, mais il y a un autre club.
Oui, parce qu'on voulait parler d'autres trucs, mais c'est vrai que Suarez, c'est magnifique, mais deuxième de la Liga, c'est Alavés. Donc, je vais d'ailleurs expliquer pourquoi ça s'appelle Alavés, parce que plein de gens m'ont posé des questions sur les réseaux sociaux. Alavés, c'est pas une ville, c'est Alava, qui est une province du Pays Basque, et le club Alavés, c'est le club de Vitoria, qui est la capitale du Pays Basque. Voilà. C'est un club qui avait atteint une finale de coupe de l'UEFA contre Liverpool,
je sais pas si vous vous souvenez. En 2001?
Avec Jordi
Cruyff. Le 5-4?
C'est un match de taré,
ouais. Exactement.
Ça doit faire ça, au final, 5-4.
Alors, ça dit, moi, j'ai regardé, je veux pas faire le mec, le
pisse-froid.
Ils sont deuxième avec, 20 points après 10 journées. C'est le plus faible total pour un deuxième depuis 2004-2005 en Liga, quand même.
C'est la crise, là, Liga.
Mais non, justement.
C'est la crise.
Ah, ben non. Attendez.
Depuis que ton ami a quitté le Real, c'est fini.
Ah, comment?
Très belle.
Mais pourquoi? Moi, je vous adore. Quand le Real ou le Barça avaient plein de points devant les autres, c'était, oh là, c'est chiant, il n'y a pas de suspense, il y a eu trop de différence. Aujourd'hui, qu'il y a une compétitivité de dingue entre les joueurs, entre les clubs, ça va pas. Ben non, ça sera une Liga avec peu de points puisque toutes les équipes vont en perdre et toutes les équipes vont en prendre. Les Ganes, par exemple, a battu le Barça et les Ganes est quasiment...
Sauf que cette saison-là, t'as aucun club espagnol au-delà des huitièmes de finale de Ligue des Champions. J'ai regardé.
Eh ben, on verra ça cette année.
Il bosse ses émissions.
Eh, je suis là. Merci Fredo. Reste avec nous de toute façon, mon Fredo.
Ah bah oui. Hein.
Bah oui. Dans quelques instants.
Parce que j'ai donné mon avis sur plein de trucs quand même.
Oui, oui, bien sûr. Dans quelques instants, on sera en Angleterre comme avec Julien Laurence. Oui, on fera le point. Beaucoup d'émotions en Angleterre après ce qui s'est passé côté de Leicester ce week-end. À tout de suite.
RMC Football Show. L'After Foot. Nicolas Villas.
Et Daniel Riolo et Pierre Ducrot et nos drôles de dames, Fred Hermel, Julien Laurence, David Lortolari et Simone Rovera. Julien Laurence, c'est à toi. Beaucoup d'émotions en Angleterre hein, après le crash de l'hélicoptère du propriétaire de Leicester, Vishay Srivaddhanaprabha. C'était samedi soir. Il y a beaucoup d'hommages qui ont été rendus en Angleterre. Les équipes qui ont joué avec un brassard. Il y a beaucoup d'émotions là, également aux alentours du King Power Stadium aujourd'hui. On a vu la veuve de Vishay et son fils également qui ont déposé une gerbe de fleurs à l'endroit du crash juste à côté. Hein, Julien.
Ouais, toute la journée, hein, depuis très tôt ce matin, on a vu des centaines de personnes, des supporters de Leicester, des supporters d'autres clubs de la région, des supporters de clubs de tout le pays, des gens qui n'avaient aucun lien avec le foot, venir se recueillir au stade. Il y avait un grand portrait de Vishay qui était là, des gerbes de fleurs comme tu l'as dit un peu partout, des écharpes, des maillots, tout ça. Il y a un livre de condoléances qui a été ouvert, beaucoup de gens aussi qui ont envoyé des messages de condoléances, le prince William par exemple, Theresa May la première ministre. Voilà, c'est vraiment une grosse émotion. C'est une tragédie ce qui s'est passé samedi soir avec cet accident d'hélicoptère. Il y a 4 autres personnes aussi hein, qui sont morts dans cet accident, et c'est vrai que ça a vraiment beaucoup touché le football anglais ici, et même pas que le football anglais hein, vraiment tout le pays.
Oui, on va parler de foot également parce que ça continue. D'ailleurs, juste un petit truc, est-ce que ça a choqué en Angleterre que ça joue ce week-end quand même ?
Non, ça n'a pas choqué que ça joue ce week-end. Il y a eu des brassards noirs qui ont été portés par les joueurs, notamment dans les matchs de dimanche, donc le Crystal Palace Arsenal par exemple, le Burnley Chelsea aussi. Il y a eu une minute de silence ce soir dans le match entre Tottenham et Manchester City, combiné avec l'hommage pour le 8 novembre aussi. Le match de demain en Coupe de la Ligue de Leicester contre Southampton a forcément été reporté. On ne sait pas encore ce qui va se passer du match de Cardiff contre Leicester le samedi prochain, mais c'est possible aussi qu'il soit reporté. Donc voilà, il y a quand même eu des choses qui ont été faites, il y a des hommages qui ont été portés. Donc c'était pas forcément pas choquant qu'il y ait eu des matchs et aujourd'hui et hier, et qu'il y en aura d'autres demain non plus, mais c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup d'hommages faits soit au stade comme on l'a dit, mais aussi dans les matchs qui ont eu lieu.
Et techniquement ça change quoi dans la gestion du club alors le fait qu'il soit plus là Vishay?
Alors d'après ce qu'on me dit, pas grand chose finalement. Le club appartenait à la famille, elle restera à la famille qui a arraché le club. Son fils Ayawad, qui était le vice-président, mais qui dirigeait lui-même le club au jour le jour, si tu veux, même si c'était Vishay qui était le président et le propriétaire officiel, c'était un de ses fils qui s'occupait de faire tourner le club. Donc ça changera pas. Normalement le conseil d'administration devrait le nommer lui président, donc il passera de vice-président à président, mais au niveau du futur de l'avenir à au moins un moyen terme de Leicester City, ça changera pas. Ils continueront à s'occuper du club comme ils l'ont si bien fait depuis 2010 quand ils avaient racheté le club à l'époque pour 50 millions d'euros.
Alors donc du coup ça a joué ce week-end, ça a joué ce soir également entre Tottenham et Manchester City. City s'impose 1-0. C'était un bon match ou pas Julien?
Alors déjà, c'est scandaleux, c'est la pelouse
déjà, parce que ouais.
Non, c'était un match moyen, et la pelouse, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils l'améliorent pas plus vite que ça.
Merci Julien.
mais que le match de foot américain était hier. Comment tu voulais améliorer la pelouse entre hier et aujourd'hui?
Non, en fait, le problème c'est qu'ils n'étaient pas prévus. Il n'était pas prévu que Tottenham reste aussi longtemps.
Voilà, c'est ça. En fait, il y a eu plein de trucs. Ça avait commencé avec la boxe, ça s'est enchaîné hier avec. Déjà, je comprends pas qu'ils acceptent de faire d'autres manifestations, enfin en l'occurrence le match de foot américain.
Bah si, parce que ils devaient plus jouer là.
C'est très étonnant qu'en Angleterre justement on soit dans cette désorganisation. Moi j'ai l'impression que là-bas ce genre de choses ne pouvait pas arriver. Voilà, c'est tout.
Non, c'est le pire, en gros.
Voilà.
Il y a déjà eu des matchs de foot américains à Montpellier?
Non, mais la pelouse, ça ressemblait.
Et même le maillot de City, d'ailleurs.
Un peu pareil.
Mais celui de Montpellier est joli, hein. Mais alors à côté de celui-là, putain.
Mais le pire, c'est que c'est quand même un des matchs les plus importants de la saison en première ligue. Et que t'as le gros sigle de la NFL avec marqué ouais, NFL en plein ouais, milieu ouais, du terrain ouais, que ouais. tu voyais encore vachement et dans tout le monde dans le monde entier t'as des centaines de millions de gens qui ont regardé ce match et t'avais marqué NFL partout t'avais marqué t'avais les traces et les lignes c'était incroyable coup, pour un, mais tu vois pour une ligue qui est si en avance côté marketing bah, par rapport à beaucoup
c'est ça,
d'autres
c'est à ça que je voulais en dire
c'est incroyable
c'est étonnant pour l'Angleterre ouais. Mais rassure-moi, ouais, ce match a quand même été moins regardé que le classico Barça-Real qui a vu le Barça coller une grosse raclée au Real dont Fred Hermel nous a peu parlé.
Non mais...
Mais
non mais Charlie, toi, rentre pas dedans, toi.
mais j'adore parce qu'il a aimé ce match en plus. C'était un vraiment très très beau match.
Ah oui, bah oui.
Alors parlons d'un autre match du coup, Julien. Bon. Manchester United qui s'est relancé à domicile, victoire 2-1 face à Everton et Mourinho qui dit merci à ses Français, Pogba et Martial. Hein.
Ouais, ouais, qui ouais et puis qui et bien merci Anthony Martial,
il les a remboursé les deux, hein.
Il les a réveillés un peu.
Ouais.
T'as raison, il les a réveillés.
Il aura bien tapé Martial, sur la gueule, mais.
Ouais. Quatrième but dans ses trois derniers matchs de Première Ligue. C'est la première fois qu'il enchaînait quatre titularisations de suite depuis un an. Et on sent vraiment le renouveau et la confiance. De toute façon, on l'a toujours dit, hein, qu'avec Anthony Martial, ouais. ça marchait à la confiance, qu'il fallait lui montrer que, bah, qu'il était aimé, qu'il était apprécié, qu'il était respecté, etc. Et que, maintenant qu'il a ça, le but qu'il marque hier, sa reprise intérieure pied droit, enroulée comme ça en une touche.
Coup du pied,
c'est fantastique.
Elle est frappée coup du pied, c'est pas qu'un intérieur, justement. C'est aussi coup du, avec le coup du pied. C'est ça qui est fort.
Ouais,
c'est
avec le coup du pied, mais
du pied pour l'envelopper.
Il la brosse, voilà, il la brosse quand même bien pour qu'elle rentre côté opposé. Et c'est vrai que ça, il l'aurait pas tenté. Par exemple, il y a deux mois et demi, il l'aurait pas tenté. Là, il attend, ça rentre. Pogba a fait un gros match aussi, et ça fait la différence.
Et Julien, justement, si je peux me permettre, parce que Daniel, tu dis ils ont pris tellement de coups de bottes ou je sais pas ce que c'est, de gifles qui commencent à être efficaces. Moi, je te dis le contraire. C'est que justement, Mourinho, le dos au mur, est obligé de leur faire confiance et de les laisser un peu tranquilles, Martial et Pogba, et c'est là comme par hasard.
Enfin, il vient d'enlever le brassard à Pogba il y a moins d'un mois quand même.
Ouais, Pierre. Il a enlevé le brassard, mais c'est Pogba qui tient son milieu et il a remis Martial et puis il arrête de l'enlever.
Mais donc il
titulaire plusieurs fois.
Mais donc il le pique.
Non, il le pique pas. Non,
t'enlèves le brassard à un joueur.
Il fait ce qu'il a jamais fait depuis un long moment, c'est lui laisser enchaîner des matchs à Martial. Il est obligé de le faire.
Je te parle de Pogba, moi. Je te parle pas de Martial.
Ouais, Pogba, mais même Pogba, il l'a piqué peut-être, mais Pogba a répondu. À mon avis, autrement. Alors, tiens, et moi, je pense que c'est les limites du management de Mourinho, justement, à un moment donné.
Puisqu'on parle de Pogba, Julien, alors il y a eu ce fameux. Alors, il marque pas sur penalty techniquement Pogba, parce qu'il frappe son péno, il est repoussé par Pickford et derrière.
C'est habile, c'est habile pour les stats, ça.
Ouais, c'est vrai, on remarque que ça frappe pas un penalty du coup. Et cette petite course d'élan, là, ça va pas l'énerver un peu, le José Mourinho, parce que c'est pas
le
premier qui
est comme petite, ça. Hein. Petite, t'es gentil. Ouais, bon. T'es gentil avec le petit, hein, parce qu'il y a 26 pas. Donc,
28, je crois.
Usain Bolt a mis moins de temps à faire son 100 mètres quand il a battu son record du monde que bon Paul ça. Pogba hier avant de tirer sa course d'élan pour marquer son penalty. Ce qui est assez incroyable, ça a beaucoup fait rire les Anglais parce qu'il a marqué après. S'il avait pas marqué, il se serait fait massacrer. Il a réussi à marquer sur le rebond quand le ballon est revenu vers lui, mais c'est son style visiblement.
Il en a loupé un autre comme ça, il en a marqué aussi d'autres comme ça. Bon,
il changera pas visiblement. C'est ce que les gens nous disent. Autour de lui, il changera pas.
J'ai pas entendu le contraire dans une interview. Il a pas dit justement qu'il pourrait peut-être changer maintenant de course d'élan.
Faire 26 pas.
D'après ce que les gens autour de lui disent, il changera pas. C'est comme ça qu'il le sent. Mais après, on verra le prochain. Mais
jingle, Julien Laurence, car avis tranché de Julien Laurence à venir.
Ah bon? Man, quelle surprise! Just imagine, they can go top of the table in the game, they win on Friday night at home against Lille.
Eh mon gars, des perlouses comme ça, mais il y a que ça, il y a que ça.
Ah oui!
Alors un avis tranché de Julien Laurence qui va beaucoup plaire à Daniel. Alors toi, tu dis, plus les semaines passent et plus les Anglais regrettent de ne pas avoir la VAR dès cette saison.
Eh oui, parce qu'ils ont fait les malins avant la Coupe du Monde en disant non, tout le monde fait ça, mais nous, vous savez quoi, comme on fait jamais rien comme les autres, on n'a pas la même monnaie, on conduit pas du même côté de la route, on a plein de choses différentes, et ben on va attendre un peu pour la VAR parce qu'on n'est pas convaincu. Après la Coupe du Monde, ils se sont rendus compte que peut-être ils avaient fait une erreur, et depuis le début de saison, ils se rendent compte qu'ils ont vraiment fait une erreur, parce que les matchs se succèdent, et à chaque fois, ils se rendent compte que si la VAR avait été là, ça aurait peut-être changé les choses, et de plus en plus d'entraîneurs, par exemple, disent, mais si on avait eu la VAR, ben voilà, on aurait peut-être eu cette décision envers nous, parce que, par exemple, on l'a vu dans le match entre Crystal Palace et Arsenal hier, le but de Aubameyang pour Arsenal, le deuxième, avec la main de Lacazette, aurait jamais dû être accordé. Le deuxième penalty pour Crystal Palace, Wilfried Zaha contre Xhaka aurait peut-être pas non plus été accordé et ça aurait pu changer forcément la physionomie du match aussi. Et on a régulièrement ces problèmes-là ici en Angleterre. Je peux vous raconter le match entre Arsenal et Leicester par exemple lundi dernier, où Leicester aurait dû avoir un penalty et peut-être un carton rouge même pour Arsenal. Voilà. Oh ben, systématiquement chaque week-end on a ces histoires.
Et hier soir tout le monde a pleuré à Marseille, donc tu sais. Hein.
C'est vrai. Non mais c'est bon, sûr. Voilà. Je m'attendais à ce que tu me dises ça.
Ce sera pareil partout, mais tout le temps, hein, ça changera rien, mais bon, vous avez le droit d'y croire, nous on y croit ici. Hein.
En Espagne, ça marche.
Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Ouais, bah, tu me diras, hier, dans le Classico, il y avait tellement pas photo qu'il n'y avait pas de problème.
Avec Daniel,
vas-y, mais excuse-moi, le penalty pour le 2-0, c'est le VAR qui décide. Mmh. Et qui dit bien qu'il y a faute de Varane.
Très bien.
Donc ça marche.
Mmh. Vas-y, Julien.
Non mais après sur le match d'hier entre Marseille et PSG, je comprends bien ton point Daniel. Après c'est aussi l'arbitre qui est là pour juger et qui peut avoir, s'il le souhaite, l'aide de la VAR ou pas de la VAR, et l'arbitre qui s'occupe de la VAR peut l'aider ou pas. En Angleterre, ils étaient persuadés qu'il fallait attendre un petit peu avant de le mettre en place. C'est pour ça que ce sera que l'année prochaine,
Julien,
ici en Première Ligue.
Un an de plus, ils vont pas mourir pour
voilà,
ça.
Voilà, oui, mais si tu veux,
au niveau de l'image internationale.
Oui, sauf que effectivement, comme le dit Fredo, t'es un peu derrière les autres, et c'est là, mais c'est quand t'as ces erreurs-là que tu te rends compte que
des champions, y a pas non plus. Donc bon, ça va. Tu crois que les Anglais, ils ont jamais regardé en dehors de, ils ont jamais mis le nez à la fenêtre de leur vie. Ils vont mettre maintenant le nez à la fenêtre pour savoir ce qui se fait en France, en Italie ou en Espagne ou en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils s'en caguent? C'est même pas.
Bah non, justement, c'était bien le problème, puisque au départ ils ont dit non, on va pas faire comme tout le monde.
Eh bah voilà, ils vous précipitez tous jusqu'au mois de juin en Ligue des Champions, elle y est pas non plus. Ça va. On va pas crever, on a l'impression que maintenant on peut plus voir un match de foot sans le VAR. Et hier, je te répète, le Classico, à la fin, tout le monde chialait de la même façon. Donc bon, voilà. Le classico, je m'en fous.
Le Classico, c'est l'après-midi.
C'est vrai.
C'est pas le même match.
Je veux dire, le match, il y a eu 5-1 pour le Barça, mais on en a pas parlé parce que Fred Armel a mal au cul.
C'est lui la même.
Ton cadeau, ton bidon du week-end, Julien.
Je vais même pas répondre parce que, Julien, je préfère te laisser parler.
Il n'y a pas grand chose à dire. Décision.
Ton cadeau de la semaine.
Mon cadeau, c'est Fabinho, notre ami Fabinho qui avait eu un début de carrière à Liverpool un peu.
Qu'est-ce que tu fais là?
J'ai dit garder Fabinho.
Ah ouais, j'ai rien compris.
Ça m'intéresse, vas-y.
T'as rien compris.
Laisse tomber.
Non, mais Fabinho qui avait eu un début de saison un petit peu compliqué, simplement parce qu'il jouait pas beaucoup. Mais Klopp lui avait dit depuis le départ, ne t'inquiète pas, je vais te donner du temps pour que tu t'adaptes à ce qu'on fait ici, à comment on joue, à ton intégration par rapport au football anglais, à la vie anglaise, etc. Et il a tenu parole. Petit à petit, il l'a fait jouer plus. Il a été titulaire contre l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions. Il a été le meilleur joueur de Liverpool. Il a été encore titulaire ce week-end contre Cardiff. Et il a encore été très très bon. Ouais. Il est vraiment très très bon. Dans l'impact physique, c'est quelque chose qui leur manquait vraiment.
Alors, quand il joue à la place de l'avant. Alors ça se passe comment?
Alors justement, c'est là où il a fait un peu évoluer son système, Klopp. Il le fait jouer qu'avec un numéro 6 à côté de lui, donc Wijnaldum par exemple samedi contre Cardiff. T'as même l'impression que Fabinho a aidé Wijnaldum à monter d'un cran encore dans son niveau de cette saison, qui était déjà très bon avant que Fabinho commence. Et après ça te permet de mettre aussi Shaqiri, Mané et Firmino et Salah. Donc t'incorpores Shaqiri dans cette équipe, alors que dans un 4-3-3 plutôt traditionnel, il y aurait pas vraiment de place pour Shaqiri. L'avantage d'avoir Fabinho et son impact physique notamment, c'est ce qui plaît beaucoup à Klopp, c'est que ça te permet d'enlever un peu un milieu défensif si tu veux, pour mettre un joueur un peu plus offensif à la place.
Et ton bidon, c'est un ancien entraîneur du Real aussi.
C'est Rafael Benitez qui a beaucoup de mal. Alors c'est pas que de sa faute, hein.
Rafael Benitez. Son patron depuis des mois déjà. Lui.
Ouais, c'est vrai. Il a pas eu d'argent à dépenser pendant l'été pour renforcer un effectif qui était déjà très très limite la saison dernière. Il a fait des miracles la saison dernière pour maintenir Newcastle en Première Ligue. Là, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué encore cette saison. Il arrive même pas à trouver la formule pour au moins essayer de grappiller quelques victoires par-ci par-là. Ils ont toujours pas gagné, hein. Ça leur est jamais arrivé d'avoir aucune victoire en Première Ligue après 10 journées, et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup.
Merci beaucoup Julien. Dans quelques instants, on filera en Italie. Il y a l'Allemagne également qui nous attend avec toi, David. Mais oui, on sera avec Simone dans quelques instants du coup.
Benitez qui avait pris 4-0 hein, contre le Barça, parce qu'il aime bien Daniel
dans le classique.
Dans un classico, et c'était à Bernabeu en plus, c'est encore pire. 4, ça fait mal hein,
par derrière. Benitez, quel rapport avec la choucroute là?
Mais non, mais que le Real, c'était bien quand on dit que le Real se prend des branlées, tout ça, donc
c'était avant ton SMS.
Non, mais là, moi,
je parlais simplement de la raclée d'hier, hein. J'avais pas besoin d'aller en
5-1 pour le Barça, magnifique match.
Fred a rappelé triplé.
Daniel, ça va pas, toi, en ce moment. Tu comprends plus les blagues et tout, qu'est-ce qui se passe?
Mais
il n'était pas attentif.
Moi, je pensais que c'était
ailleurs. Daniel, t'ailleurs. T'as des soucis qui te donnent des problèmes?
Sinon, alors, une pause, sinon la balle de 2-2, il se passe quoi pour l'attaquant qui devait se révéler une fois que Ronaldo était parti?
Lequel? Parce qu'il
tout de suite, ne réponds pas.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Daniel Riolo, Pierre Ducrot, les drôles de dames, Fred Hermel, Julien Laurence, David Lortolari et Simone Rovera sont là. Jingle, Simone.
Kéline, que j'adore, que je lui donnerai les clés de la maison, les yeux fermés, la poussette avec ma petite, et j'ai totale confiance à Giorgio Kéline dans le terrain et dehors le terrain.
Est-ce que tu lui filerais ton chat aussi?
Ah, oh oui, oui.
Ah oui?
Kéline, les deux, okay. Les chats.
Mais tu préfères ta
fille? J'allais dire un truc, mais j'ose pas.
Non.
T'as toujours osé. Vas-y, continue.
Il y a des associations protectrices des animaux qui nous écoutent. Hein.
Mais tu peux
mais
pas.
Le chat peut se défendre. Non, c'était pas ça en fait. C'était pas
mais
les animaux.
La poussette, parfois ils sont tous les trois. Donc,
tu baptises ma.
C'était pas la poussette non plus.
Ma curiosité, Fred.
T'as dit quoi?
Qu'elle a petite et sur la poussette, les deux chats se mettent en dessous.
D'accord.
C'est comme ça.
C'est mieux comme ça.
C'est organisé.
Écoute, on a pas un carnaval.
Un David énorme. Grandis la David, c'est trop bon.
La poussette. Inter Lazio soir. Eh, festival de l'Inter, Simone. Sont content les interistes.
La Lazio était fatiguée de son match au Vélodrome, non?
La Lazio était peut-être fatiguée, j'y crois pas trop. C'est surtout que l'Inter s'était bien reposé face au Barça parce qu'elle n'avait pas
ouais.
N'avait pas joué. Match parfait, domination totale de l'Inter, presque une surprise de retrouver l'Inter à ce niveau si on pense qu'il y a 44 jours, c'est-à-dire après 4 journées, l'Inter avait fait 2 défaites, un match nul et 1 victoire. Il semblait une équipe qui avait rien à voir avec les idées de l'été, c'est-à-dire être l'adversaire de la Juve. Mais il y a un
énorme match, Simone. Il fallait un peu de temps.
Il fallait du temps, mais bien il sûr. Fallait deux choses. Que les nouveaux arrivent à s'intégrer. Il y a des nouveaux importants. Même si un joueur comme Nainggolan, sur 13 matchs, il a perdu déjà 4. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas là tout le temps. Et un joueur.
Il a perdu déjà 4.
C'est-à-dire, il est blessé.
Il n'en a pas joué.
Il n'a pas joué.
Soit
oui.
Précis.
Oui, parce qu'en français, il a perdu. On peut imaginer qu'il a perdu 4 matchs.
Okay.
Genre quand il joue,
il n'était pas présent sur le terrain.
Voilà, c'est ça.
Même discours pour Versalico, qui arrive d'Atlético Madrid, qui n'a joué pas lui, par contre, seulement 4.
Ils ont une bonne équipe, l'Inter. Je ne sais pas si tu as vu et tout, mais les joueurs et tout.
Il y a un joueur que ce soir, je mets en valeur. C'est celui que dès qu'il a recommencé à jouer, comme la saison dernière, il a retrouvé son niveau de la Coupe du Monde, a fait tourner l'Inter, et c'est Brozovic. Moi, j'étais souvent critique sur ces joueurs qui avaient des hauts et des bas. Là, je trouve que Brozovic a trouvé confiance. on a cherché à les récupérer, même Modric, mais bon, on n'a pas réussi.
On attend un peu, ça va arriver.
Oui, il vient arriver. Ouais.
Pour le coup, tu as quelques mondialistes, parce qu'il y a des présidents qui voulaient des mondialistes. Eux, ils en ont quelques-uns, entre les Croates...
Miranda, encore, Vecino...
Ouais, Miranda, c'est ce que j'allais dire, Vecino...
Miranda, il joue encore.
Il est annoncé partant, lui, d'ailleurs. Lui.
Miranda?
Ouais, on parle de lui au Portugal.
Parce que lui, il n'est pas plus titulaire, mais c'est le troisième dans la rotation de Spalletti. C'est important, ce soir, il était titulaire, parce qu'il ne voulait pas risquer des vrais après la saison dernière. Lui, ancien de la Lazio, lui qui a été coupable sur les derniers matchs qui avait lancé l'Inter en Ligue des Champions. Mais l'Inter, ce soir, est deuxième... devant Napoli à la différence de but. La chose intéressante, c'est que oui, il a 6 points de retard sur la Juve, mais 7 d'avantage sur la 5e. Donc, l'objectif de l'Inter, c'est de rester dans les top 4 pour la Ligue des Champions.
Je
dirais qu'ils sont bien en avance sur leur objectif.
Victoire de la Juve ce week-end 2-1 face à Empoli, doublé de Cristiano Ronaldo. Et toi, t'as un avis tranché sur
voilà,
Ronaldo,
la boutique encore.
Que tu considères de plus en plus important.
Parce que voilà.
Ça, je suis pour rien. J'ai rien.
Allez,
tu mets-toi un café, non ? C'est pas moi.
Ah, c'était un café que tu me dois. Non, je suis surpris de ça. C'est-à-dire, moi, je m'attendais que Cristiano Ronaldo, bien sûr, qui faisait du Cristiano Ronaldo, mais devenir si important, si déterminant dans une équipe qui déjà tournait très très bien, non, je m'attendais pas à ça. C'est le seul joueur qui a fait tous les 90 minutes sur les 10 matchs de la Juve en championnat cette saison. Il est toujours titulaire, il veut toujours jouer. Et Massimiliano Allegri le met toujours sur le terrain. Il ne fait jamais sortir, même pas pour les dernières 2-3 minutes.
Aïe, 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 aïe.
Ben peut-être.
Je pense qu'il faut le gérer un peu. Parce que faisait Zidane.
Ah bah Zidane. Je fais juste un petit aparté. Zidane, c'était après l'Euro, donc il y a deux ans, il lui a dit si tu m'écoutes et si tu acceptes de manquer plusieurs matchs, beaucoup de matchs pendant la saison, et ben tu vas prolonger ta carrière.
Mais ce sera le cas à la Juve. Moi je suis sûr. Moi je suis convaincu qu'à un certain moment que la Juve est en train de faire un trou au classement avec les poursuivants, Cristiano va jouer tout le temps. Après, quand il y aura des matchs importants à gérer en Ligue des Champions, on verra parfois aussi Cristiano rester tranquillement sur le banc. C'est aujourd'hui la Juve est en train de tuer malheureusement les championnats italiens. Oui, Inter et Naples sont derrière 6 points, mais il y a un écart extraordinaire. Mais ce que je voulais dire sur Cristiano, c'est qu'il est en train de devenir vraiment l'homme en plus, même à niveau des stats. Aujourd'hui, il a été impliqué sur le 48% de buts de la Juve. C'est déjà beaucoup. 52%, ça monte un peu si on considère que la Serie A, parce que il a pas joué deux matchs pratiquement de Ligue des Champions. Mais sur les 7 dernières journées, il est impliqué sur les 71% de buts. C'est-à-dire, il est devenu un joueur qui fait tout, les passes, les buts, il est toujours plus cherché par le coéquipier. Lui, s'y trouve plus. Moi, je m'attendais pas, peut-être je m'ai trompé sur l'idée de la gestion et de l'arrivée de Cristiano. Moi, je m'attendais pas que dans une équipe avec des joueurs très important, les Pjanic, les Dybala, les Mandzukic.
Il fallait demander à Nico, il était toujours imposant.
Ça risquerait pas de finalement, de façon un peu absurde, les déséquilibrer à force si jamais il venait à s'absenter ou s'il avait une absence pendant la saison, ça pourrait pas être un problème.
Est-ce qu'ils ont déjà été aussi dépendants d'un joueur, ces dernières années?
Moi, je me rappelle pas. Il y avait Tevez qui était extraordinaire à un certain moment, qui faisait beaucoup de buts, mais.
Enfin, le Real a jamais souffert de Cristiano Ronaldo au final.
Oui.
Le mec, il les a tout le temps fait gagner.
Il vaut mieux l'avoir, quoi qu'il arrive, quoi. Et si tu es là, voilà. Qu'il soit performant.
Non, mais je m'attendais pas qu'il s'imposait et devenir si déterminant en deux mois.
Je suis d'accord.
En deux mois, il a.
Mais d'ailleurs, les débuts ont été un peu plus difficiles, quoi.
Si on oublie les trois premiers matchs où il a pas marqué, il avait mis 28 tirs pour trouver le premier but. Aujourd'hui, Cristiano.
C'est que les trois premiers matchs?
Les grands premiers.
Les trois premiers matchs seulement où il n'a pas marqué?
Ouais.
Il n'y avait pas plus?
Non.
Ah, pardon.
Okay. Il a trouvé la
carrière. Tu dis qu'il qu'il a apporté quelque chose finalement à la Juve.
Non, pas dans les jeux seulement. Mais là, c'est des stats un peu plus économiques. Mais pour vous dire, 30% des recettes du stade en plus, parce que la Juve a augmenté du 30% les prix des billets et des abonnements.
Et attendez,
c'est toujours guichet fermé, les stades, bien sûr. 100% en plus des ventes de maillots pour la Juve qui a doublé sa pourcentage de ventes de maillots.
Il y a un élément aussi qu'il faut préciser, mais qui est pas chiffrable. C'est le niveau de l'entraînement quotidien qui augmente quand il y a Cristiano Ronaldo.
Et ça, tout le monde le dit à la Juve, t'as raison.
Et pourtant, ça devait être déjà un sacré niveau parce que chez les Italiens, ça bosse.
Là, en plus, dans ce club-là, on n'a jamais rigolé.
Ouais. Ça bosse déjà.
Non. Mais c'est vrai que lui, il a tellement envie qu'il entraîne tout le monde, quoi. Il est l'exemple dans lequel les autres se regardent.
Et après, il est devenu déjà un homme du club, on peut dire. Après son carton rouge face à Valence, il y avait une des rares tweets du président André Agnelli qui disait « un pour tous, tous pour un ». En latin, il avait écrit. Et donc, imaginez, et hier, après la victoire de face à Empoli, où il a marqué les deux buts, c'est Cristiano qui a fait les mêmes tweets. Donc, on peut dire, on retrouve vraiment une communion totale entre le club, les joueurs, les coéquipiers. Imaginez, deux jours libres aujourd'hui pour les joueurs de la Juve. On a vu des photos des joueurs un peu partout. Il y a Chiellini et Bonucci qui sont à Disneyland. Dybala, il est à Amsterdam avec sa fiancée. Cristiano Ronaldo a mis en photo. Il était en salle de sport, à s'entraîner. Donc voilà.
Ça aurait été comme ça aussi. Hein.
C'est toujours Cristiano et c'est quelque chose qui change totalement.
Il y a pas mieux.
Ouais, mais
il bossait.
C'est un sport.
Comique de répétition.
Au bord de la piscine.
Ouais, mais il faisait du sport avec.
Il faisait de la natation
aussi.
Il faisait des longueurs. Non, il faisait de la muscu.
Il faisait des longueurs. Rien ne se dit exprès. Immédiatement, il sort de la boutique. Ouais, hop.
Il aime pas. C'est quoi ces insinuations?
Aucune insinuation, monsieur le boutiquier.
Ok.
Moi, je l'aime bien ta boutique, Nico, tu sais.
Oui.
Moi, j'aime pas les grands supermarchés. J'aime bien les petites boutiques de quartier.
Excuse-moi, elle t'a fait croquer pendant tellement longtemps.
9 ans.
Ouais.
J'ai une reconnaissance du ventre, mon monsieur.
Voilà. Mais bon. Et c'est les lendemains qui sont durs. Ton cador, ton bidon du week-end, Simonet.
Mon cador, j'ai parlé déjà bien de Brozovic, bravo. Mais c'est un joueur qu'on connaît pas beaucoup, c'est Rodrigo De Paul, numéro 10 de l'Udinese. C'est vraiment les joueurs qui aujourd'hui est en train de tirer vers le haut cette équipe. 5 buts sur 10 marqués par l'Udinese cette saison arrivent de ses pieds. Et c'est.
Il vient d'où? Il est argentin.
C'était la saison dernière. C'était sa première saison à l'Udinese.
Et je fais partie de ces mecs qui passent parce qu'on sait que l'Udinese recrute toujours des mecs qui ensuite vont dans d'autres clubs.
C'est une de ces joueurs qui va partir peut-être. Il va filer à Watford, vu que c'est la filiale.
La sphère Pozzo,
l'Udinese. Ouais. J'ai dit Watford parce que c'est la filiale anglaise. Aujourd'hui, c'est l'Udinese qui est devenue la filiale. C'est la maison principale, c'est Watford, et qu'il a été sélectionné avec l'Argentine pour le dernier match amical. Donc c'est hier, il a marqué un but extraordinaire de à Genova pour l'égalisation de l'Udinese. Mon bidon, c'est les duos Belotti-Simeone, une Fiorentina, l'autre Torino. Ils ont marqué deux buts seulement les deux cette saison. Il n'y arrive plus. Ce week-end, il y avait Torino face à Fiorentina. Les deux ont fait un match très décevant. Et selon mes dernières infos, Simeone, comme il n'était pas titulaire, c'était un peu une punition de Pioli, qui trouve qu'il est devenu trop individualiste dans les dernières semaines, qui après ça le sélectionne avec l'Argentine.
Il est le fils.
Ouais. Il cherche un peu de chercher trop le but, de devenir trop égoïste.
Et jamais il s'est remis sa blessure au genou, ça l'a cassé, c'est fini.
C'est incroyable. Deux buts en pénalty cette saison, c'est catastrophique fou. Sa saison, un peu comme la saison dernière.
Il a appelé à être parmi les grands.
Merci beaucoup, Simone. On file en Allemagne avec toi, David. Quelques résultats de la 9e journée de Bundesliga. 2-2 entre Dortmund et le Hertha. Le Bayern s'est imposé 2-1 à Mayence. Victoire de Fribourg face à Gladbach 3-1. 0-0 entre le RB Leipzig. Et Schalke nous le fit.
Bon week-end pour le Bayern. Le Dortmund accroché et Gladbach accroché.
Oui, bah justement.
Contre Wolfsburg,
non,
c'est ça. Ouais, le Bayern Leverkusen.
Non, contre Werder Bremen.
Je confonds toujours le Werder Bremen. Jingle l'Orto.
Non, mais moi, je voudrais, indépendamment du t-shirt, je voudrais fumer la même chose que David Lortolari, parce que arriver à citer Sun Tzu et l'art de la guerre sur
avec
son brief,
avec
la Bundesliga,
de l'école de musique,
avec le t-shirt de la, voilà,
mais la jeunesse du Bois d'Arcy.
Il y a plus que des dribbleurs dans l'équipe d'Allemagne,
tu es colossal!
Ah, le look de mon Lorto. Alors, l'Eintracht Francfort, qui est dans le groupe d'ailleurs de l'Olympique de Marseille en Europa League. Ah, ils ont fait match nul face à Nuremberg ce week-end. Ils peuvent dire merci à leur buteur français,
mais oui,
Sébastien Haller, qui a une nouvelle fois égalisé. Et toi, t'as un avis tranché sur Sébastien Haller également.
Ouais, j'ai pris le temps. Je voulais pas chanter avec les sirènes et hurler avec les loups sur Sébastien Haller parce que c'était un peu le joueur à la mode comme avant-centre en Allemagne ces dernières semaines. Et finalement, à force de prendre le temps, on se dit qu'il va bien falloir évoquer le sujet. Vous, souvent, Pierre notamment, Daniel aussi, parlait de Giroud et de l'équipe de France dans des débats sans fin. Alors je veux pas ce soir dire
qu'il c'est le profil du neuf
remplacer, voilà. Je suis pas en train de dire qu'il faut remplacer l'un par l'autre. Simplement constater ce soir que au point où on en est en Bundesliga, on est à la 9e journée, on a une ou deux journées de retard sur les autres grands championnats parce qu'il y a aussi moins de matchs, il y en a 34 au total. Sébastien Haller est le joueur le plus décisif en Bundesliga cette année. Vous savez qu'en Allemagne, on appelle ça les scoreurs, on comptabilise but plus passe décisive, on additionne les deux et on fait un classement avec ces deux aspects importants, ces deux stats importants. Et Sébastien Haller est en haut de ce classement-là, actuellement en Bundesliga. 6 buts marqués, dont 2 pénaltys, aucun échec sur les pénaltys, et 6 passes décisives. Et pourtant, il n'est pas seul à Francfort, parce qu'il y a aussi le jeune Jovic dont on a parlé la semaine dernière, qui a marqué un quintuplé. Il y a aussi Rebic, qui n'est pas systématiquement titulaire cette saison parce qu'il fallait aussi qu'il digère sa Coupe du Monde. Et Francfort, ça n'est pas que Sébastien Haller. Sauf que Haller s'impose avec un style, un grand attaquant, 1m90, 90 kg, des capacités qui ne sont pas des capacités monotypes, c'est-à-dire que ça n'est pas qu'un avançant bourrin qui va s'installer dans la surface, qui va jouer sur les duels. Il est capable aussi de proposer des choses en combinaison et des choses un peu plus techniques. Et c'est un joueur qui dégage quelque chose parce qu'il ne doute pas cette saison à l'image de son club. On avait beaucoup, beaucoup de doutes à l'intersaison avec le départ de Kovac vers le Bayern sur Francfort. J'avais un peu sondé aussi là-bas à Francfort. On était très inquiets sur le fait de peut-être être un candidat à la relégation.
Pas du tout là. Alors.
Non. Carton plein en Europa League, ils sont bien en championnat.
Le club s'est beaucoup affaibli.
Et toi, tu le vois en équipe de France
Alors c'est vrai que statistiquement, il figure pour l'instant dans les grands championnats européens parmi les meilleurs buteurs français depuis le début de saison. Est derrière Mbappé, Ben Yedder et Plea. Et aussi en Allemagne d'ailleurs.
Ouais, en plus, c'était sûr avec lui s'il arrivera pas en retard.
Alors, Sébastien, la question c'est quand même dans quel système jouerait-il, parce que à l'Eintracht, c'est quand même des systèmes où tu n'as pas un avant-centre exclusif. Ça dépendrait après, là je ne veux pas rentrer dans les considérations des champs, pas des champs, machin, mais ça n'irait pas forcément dans le système actuel de l'équipe de France.
Bon, sinon, par ailleurs, David, parce que j'avais des questions.
Tu n'aurais pas un peu Guillaume Waru en un peu plus puissant?
Ouais, absolument. Absolument.
Même dans les gestes, dans la gestuelle.
Il vaut mieux que ce soit même un peu plus rapide aussi.
Bah, une fois que t'es un peu plus puissant, en général, tu vas un peu plus vite quand même.
Je pense en tout cas que c'était le moment.
Dans la gestuelle, etc., il me le rappelle parfois.
On approche du quart de la saison en Allemagne. Il a marqué aussi en Coupe d'Europe. Alors, il n'a pas marqué en DFB Pokal, mais il a marqué en Ligue Europa. Ouais. Mais,
top, comme dit.
Mais on peut commencer à penser à lui vraiment comme un joueur qui va finir par vraiment trouver une stabilité, ce qu'il n'avait pas jusqu'ici, parce qu'il avait aussi un passé assez faible. Hein. Ça reste un jeune joueur. Voilà un joueur. Voilà, je place une pierre aujourd'hui, je dis, il y a peut-être un regard à avoir sur ce joueur. S'il continue sa progression,
une pierre, parce que c'est-à-dire une pièce ou une pierre?
Non, il place une pierre, c'est-à-dire
une pierre, c'est-à-dire.
Marque un petit voilà. Pousset.
Ah, d'accord. Voilà. Et dis-moi, c'est quoi cette quatrième place du Verder?
Alors, c'est le deuxième point que je voulais aborder ce soir avec vous, si vous me donnez une minute.
Vas-y.
Tapez dans le milieu.
Oh là là là.
Pas seulement le Verder.
Non, il a lu les mails.
Non, mais la Bundesliga m'enchante, moi, cette saison, parce que on a beau descendre dans le classement et descendre avec la troisième place de Gladbach, la quatrième place du Werder, Leipzig, l'Hertha Berlin, Francfort, dont on disait du bien à l'instant, qui n'est finalement que septième, Hoffenheim, dont vous avez vu les qualités en Ligue des Champions cette saison, qui n'est que huitième, et même derrière des clubs importants, elle est belle, cette Bundesliga, cette saison. Le Borussia Dortmund, qui écrase tout sur son passage, soi-disant, finalement, n'a que deux points d'avance sur son suivant direct. Le Bayern, qui a des victoires un peu à la Pyrrhus en ce moment, avec des scores étriqués, un Robben expulsé encore récemment, une ambiance qui n'est pas du tout au top à Munich, est quand même là en embuscade, et il me semble bien que à Dortmund on s'est peut-être emballé un peu vite sur un Dortmund qui pourrait être champion. Elle est belle cette Bundesliga, parce qu'il y a une vraie compétitivité qui s'était un peu mise en sommeil les dernières saisons, pas seulement avec la succession de titres du Bayern,
mais aussi parce qu'il y avait David, hein.
Non, mais il y avait plus de d'outsiders.
Cette quatrième place du Werder.
Ils ont perdu ce week-end.
Qui a pris une vraie branlée.
Ouais. Ouais, mais
le problème, c'est que si tu veux.
Par rapport aux années qui en prennent 6 face au Leverkusen. Ben,
le problème, c'est par rapport aux années précédentes, qu'est-ce qu'ils foutent là?
Il y a plus 9 journées, Daniel.
Alors c'est marrant parce que tu me poses la question. Ça fait 2-3 semaines de suite que tu me poses la question et j'avais dit.
Et je n'ai toujours pas de réponse.
Si, mais il y a des réponses, mais elles sont diverses. Il y a un jeune entraîneur qui marche bien avec cette équipe, Florian Kohfeldt, dont on n'a pas encore parlé parce qu'il va falloir évidemment.
Tu as entendu parler du passage de Yann De Witt au Werder?
Pardon?
Yann De Witt au Werder.
Mais c'est vieux ça.
Non, Yann De Witt est passé cet été. C'est un coach de tennis.
Ah non.
Qui s'occupe de Kabiashvili en ce moment, qui l'a fait.
Il s'est occupé de tennis féminin aussi, lui, non?
Non, de Gilles Simon beaucoup.
Oui, donc.
Il l'a fait beaucoup progresser. Il a fait également beaucoup progresser le Biélorusse. Il a fait passer de, je sais pas, il a fait au moins gagner 50 places. C'est un Allemand, donc il paraît qu'il est passé au Werder et que je sais pas, une sorte un peu de gourou, magicien, mental.
Ça a marché. Hein. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a une dynamique collective.
Pour ça, je
voulais
savoir si t'avais entendu parler de ça, si tu pouvais être renseigné et tout.
C'est
un coach de tennis qui passe comme ça dans un club de foot pour.
C'est un coach de tennis ou c'est un préparateur mental?
Il est coach de tennis. Ouais. Il a bossé un peu avec mon fils, mais mon fils en a eu rapidement marre. Mais avec Simon, il a fait du travail longtemps bien, quand même.
Non, mais alors après, voilà, sur le Werder, on va attendre parce que là, le soufflet retombe un peu. Mais il y a un jeune joueur comme Eggestein, par exemple, dont vous n'avez absolument jamais entendu parler, qui commence à vraiment briller en Bundesliga.
Non.
Le bidon, c'est évidemment Marcus Weinzierl, parce que Weinzierl, je me souviens, on avait fait, c'est l'entraîneur actuel de Stuttgart.
Ouais, voilà, dis ça.
On avait fait en Allemagne, on en avait fait des tonnes lorsqu'il est arrivé à Schalke, en se disant, oh ben voilà.
Bien Stuttgart là, quand même. Hein.
Bah là, c'est dur. Mmh.
Et on avait une défaite. Hein. Voilà, bon dernier.
Il avait fait la une lorsqu'il est arrivé à Schalke. On avait dit voilà un entraîneur qui pourrait peut-être stabiliser un peu Schalke.
Ils ont
un peu
sur la voie du succès.
Il n'en avait rien été. Il avait été viré rapidement. Et Weinzierl qui a repris Stuttgart avec le départ de Korkut, bah là on commence à se dire que finalement tiens cet entraîneur là on aurait peut-être dû le garder, parce que ça marche pas mieux du tout avec Weinzierl, et Stuttgart est vraiment mal et va devenir un candidat à la relégation, alors que même s'ils sont remontés récemment, ça reste une place forte du foot allemand. Et le cador, c'est évidemment Jadon Sancho, le plus jeune joueur de l'histoire du Borussia Dortmund à réussir à doubler en Bundesliga.
Il me plaît ce joueur.
18 ans, 7 mois,
jeune,
3 jours, quelque
même,
chose comme ça. C'est le premier joueur des années, né dans les années 2000, donc après le 1er janvier 2000, à réussir un doublé dans ce championnat-là. Il n'y a que 8 joueurs dans toute l'histoire de la Bundesliga à avoir marqué 2 buts dans un match en étant plus jeune que lui. Gros phénomène, et qui profite évidemment de ce qu'il y a autour de lui. Götze, dont on va vite reparler. Götze, faudra en reparler parce qu'il se remet un peu en route. Je pense que l'environnement aussi autour de Sancho marche bien, et Paco Alcacer, toujours aussi fort. Ça aide, ouais. Ça aide quand t'as une équipe de bons joueurs autour de toi à briller aussi. Hein.
Merci David.
Paco Alcacer.
Paco Alcacer.
Qui jouait où avant?
Au Barça, qui a mis 5-1 au Real hier.
Oui, mais il était pas. Ouais. Il a compris, Fredo. Messieurs, non, instant, compris, ouais. Instant boutique, instant minute gauche.
Oula. Salut les copains, salut les copines.
Je m'appelle Monsieur José de Silva.
Que je disais que c'était le bordel. Là c'est pire, là c'est la merde.
Bidou, je t'aime, ciao.
Oui, vai te foder.
C'est le bordel.
Moi j'ai rien compris.
Nous l'emploi de la minute.
Jamais, Simonet, et pourtant on t'aime fort. Minute Gaëche, on vous avait proposé ça il y a quelques temps, on n'a jamais eu le temps de le faire, il n'y a pas de tu préfères ce soir, on se fait une Minute Gaëche. Résultat de la 8e journée de Liga portugaise, je vous donne les principaux.
Ah ouais, c'est un vrai truc.
Le Belenenses a battu le Benfica 2-0, Porto a battu Feirense 2-0, le Sporting hier s'est imposé 3-0 face au Boavista, mais moi j'ai pas envie de vous parler de ça, j'ai envie de vous parler du derby du Minho. Il y avait un match entre Guimarães et Braga, et au classement, il y a deux équipes en tête, il y a le FC Porto et il y a surtout le Sporting Club de Braga. Alors, faut savoir qu'au Portugal, c'est les confrontations particulières qui départagent les équipes. Et dans 15 jours, il y a quoi? Bah, il y a Porto face à Braga, justement. Il y avait le derby du Minho, donc le derby du nord du Portugal entre Guimarães et Braga. Il y a eu un partout. Braga qui perd des points là depuis deux matchs, mais qui vise le titre. Alors d'ici 2021, c'est la grande ambition du président Antonio Salvador. Faut savoir que ce serait une première dans l'histoire du foot portugais si Braga venait à être champion. Il y a que 5 clubs dans l'histoire du foot portugais qui ont été champions. Vous pouvez me les citer ou pas?
Porto, Benfica,
Sporting Portugal.
Merci, ouais, c'est là que c'est bien plus compliqué.
Ouais, il y a attends, on fait ce qu'on peut.
Tu veux qu'on cite?
Il y a deux autres clubs qui ont été sacrés champions. Une fois, Boavista en 2001. Et le Belenenses,
oui,
il y a déjà de très nombreuses années. Et alors le grand objectif de Braga, qui est le quatrième club en termes de budget au Portugal, on parle d'un budget pour le foot qui est autour des 20 millions d'euros à peine, qui vient de lancer un centre de formation il y a un an flambant neuf, etc. C'est véritablement d'aller arracher cette place. Il faut savoir que sur les 10 dernières années, ils ont fait 9e une fois, sinon leur pire classement, c'est 5e. C'est le club le plus régulier après les trois gros au Portugal.
Ouais, après ils auront du mal à aller chercher les trois gros.
Ils auront du mal. Alors quand Boavista le fait, il y a peu de gens qui s'y attendent en 2001 là aussi, mais c'est surtout que ça ferait énormément de bien au football portugais, tant ce foot est vampirisé, que ce soit dans sa gestion, dans les droits télé qui sont pas collectivisés, qui sont pas mutualisés au Portugal non plus. Ça ferait beaucoup de bien au foot portugais, ça apporterait un peu de nouveauté, ça bousculerait après les choses un peu les choses, même si Jorge Mendes est derrière ce club aussi, il met beaucoup de joueurs, il est très proche d'Antonio Salvador, le président également, mais c'est vrai que ça changerait aussi le côté, c'est toujours les plus riches qui gagnent et c'est toujours surtout les plus gros qui décident de tout au Portugal. C'est un club qui a un petit palmarès, mais depuis que Salvador est là, ils ont fait une Coupe de la Ligue en 2013 et une Coupe de Portugal en 2016 également. Voilà, ma petite minute gauche.
Je peux te poser une question sur un joueur qui joue au Portugal?
Très très vite, vraiment.
Rapide, en Espagne, les gens réclament le retour de Casillas, qui semble-t-il est très bon avec Porto.
Il fait ses saisons encore une fois. Tu sais qu'il est très très aimé à Porto et il fait beaucoup de déclarations d'amour sur la ville notamment, et sa femme se plaît beaucoup là-bas aussi, paraît-il.
Bon, mais il reviendra pas.
Non, ça veut rien dire. Pareil qu'il ira en MLS s'il se casse du Portugal. C'est ce qu'il se dit au Portugal.
Non, c'est vrai. Il l'avait dit il y a très longtemps déjà. Voilà. Parce qu'il veut que ses enfants parlent très bien l'anglais.
Merci beaucoup, les gars. Merci, les drôles de dames. Merci, Julien.
Adios.
Ciao.
Merci,
et Daniel.
Merci,
5-1 hier.
Merci, Nico. C'est très étonnant ce score. Hein. Qu'est-ce qui se serait passé si la balle de 2-2 avait été convertie par l'ombre de Ronaldo? L'ancien ombre de Ronaldo plutôt.
Ciao hombre, du coup.
Allez, courage, frère.
Merci les gars, adios. Bonne soirée, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Bisous, bonne nuit, ciao.
RMC Football Show, l'After Foot.